Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Olivier Benkemoun.
Bonjour à toutes et à tous. Tout à l'heure, d'ici 1h, c'est Marc Lavoine qui nous rejoindra, acteur, chanteur, mais aussi admirateur de Françoise Hardy. Il dévoilera en exclusivité pour Culture Média un enregistrement qu'il a réalisé autour d'un texte de Françoise Hardy. L'équipe de Culture Média en a profité pour aller fouiller du côté des archives et du patrimoine sonore d'Europe 1. On vous a retrouvé des enregistrements inédits de Françoise Hardy de 1962, l'année de ses premiers grands tubes. Dans Culture Média, j'apporte le dessert, pas moi, mais Jean-Baptiste Martinon. J'apporte le dessert, c'est le nom d'un tout nouveau magazine de voyage qu'il incarne cet été sur la chaîne C8. Et vous découvrirez que non seulement il apporte le dessert à ceux qu'il croise, mais qu'il fait aussi du sport, des rencontres et des voyages. Jean-Baptiste Martinon sera l'invité média. Connaissez-vous les néonicotinoïdes? Ils sont à l'origine de la mort de millions d'abeilles. Ces pesticides font l'objet d'une enquête fouillée et assez effrayante, il faut le dire, diffusée ce soir et demain soir plutôt sur Arte. Quels sont leurs effets connus et moins connus sur les abeilles, mais aussi les autres insectes? Y a-t-il des effets sur nous? La réponse est oui, je vous le dis tout de suite. Pourquoi ne sont-ils pas totalement interdits? En tout cas, nous poserons ces questions à la réalisatrice Miyuki Aramaki, qui co-signe ce documentaire Arte, Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes, et le journaliste du Monde, Stéphane Foucard, à l'origine de cette enquête. Vous retrouverez Bruno Donnet pour ses télescopages, ce sera après le flash de 10h. Et Louise Goua vous parlera d'une nouvelle série de documentaires consacrée à la superstar du foot américain, O.J. Simpson, poursuivi pour avoir poignardé à mort son ex-épouse. Caroline Speller fera le tour des dernières infos du jeu vidéo. Et en fin d'émission, toute cette semaine encore, on retrouvera Marc-Antoine Lebray et ses imitations. Voilà le programme Culture Média, c'est parti en direct sur Europe 1 et sur europe1.fr. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Des petites infos Mercato Télé, des petites infos séries aussi, un grand anniversaire, les 10 ans de l'émission Nu et Culotté, et puis une deuxième saison pour un programme de Netflix qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines.
Mais d'abord les audiences, qu'ont regardé les Français hier soir?
Ils ont regardé le film Les Bronzés 3, Amis pour la vie sur TF1, 3 100 000 téléspectateurs, 17,1% de part d'audience. Deuxième, c'est la série de France 3, Hudson and Rex, 2 millions, je ne sais pas pourquoi je vous fais l'accent anglais, c'est Hudson et Rex en fait, 2 630 000 téléspectateurs, 14% de part d'audience. C'est stable par rapport à la semaine dernière. D'habitude, les séries, c'est vrai que ça descend au fur et à mesure des semaines. Là, ça reste stable, c'est bon signe. Et puis troisième, France 2 avec son film Fourmis, 2 230 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. À noter que Capital sur la 6 fait son moins bon score de la saison en nombre de téléspectateurs, 2 millions seulement devant Vacances pas chères, les nouveaux bons plans hier soir.
Et vous n'avez pas fait l'accent des bronzés, c'est dommage. Et ce week-end, en résumé.
C'est vrai qu'on était encore sur les bronzés. Ce week-end, samedi, Jean-Luc Reichmann déçoit un peu avec son prime spécial 12 ans des 12 coups de midi. TF1 était deuxième de la soirée derrière une rediffusion de la série Mongeville sur la 3. Fort Boyard, de son côté, fait plutôt un bon retour sur France 2, meilleur que l'an dernier. Et puis surtout, l'émission cartonne sur la cible commerciale, les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans. De quoi faire des envieux du côté des chaînes privées. Et puis vendredi, lancement réussi pour la nouvelle émission de Stéphane Plaza, Tout changer ou déménager. 2 800 000 téléspectateurs. M6 finit deuxième de la soirée. En revanche, l'émission de Camille Combal sur TF1 s'essouffle un peu, Stéréo Club. Elle perd près d'1 000 000 de téléspectateurs par rapport à son lancement et passe sous la barre des 2 millions de téléspectateurs. TF1 seulement troisième de la soirée.
Europe 1 Culture Média.
On débute ce journal des médias avec des informations sur le Mercato Télé. On connaît le successeur de Karim Rissouli dans ses politiques.
Oui, c'est Thomas Sneguerov qui va prendre la tête de l'émission de France 5 la saison prochaine. Une information révélée par Télérama. En rien de très surprenant dans ce choix. Cet ancien prof d'histoire-géographie assurait déjà la présentation de la seconde partie. C'est politique la suite. Pour rappel, Karim Rissouli renonce à la présentation de cette émission dominicale pour se concentrer sur celle de la semaine. C'est ce soir. Il reste néanmoins un coproducteur éditorial de ses politiques.
Du changement du côté des soirées de la chaîne France Info.
Patricia Loison n'assurera plus le 23h, ce serait sa décision d'après le journal Le Parisien, car c'est un horaire difficile à concilier avec une vie de famille. Pour la remplacer, la direction a choisi un visage déjà connu des téléspectateurs de la chaîne, Alexandra Usan. La présentatrice n'est pas le seul changement à noter, c'est en fait toute la tranche qui va évoluer. Elle sera désormais de 22h à minuit, soit 2 heures de décryptage au lieu d'une.
Dans l'actualité également, Nouvelle École va avoir une deuxième saison sur Netflix.
C'est un programme qui fait beaucoup parler de lui dernièrement. Il s'agit d'un télécrochet de recherche de nouveaux talents du rap, une sorte de The Voice ou de Nouvelle Star du rap. Le casting est lancé, ça y est, pour une deuxième saison. Un formulaire a été mis en ligne par une agence spécialisée, avec à la clé pour le gagnant 100 000 euros. Et puis surtout, une incroyable médiatisation, visibilité, parce que rendez-vous compte, le gagnant de la première saison donc, qui vient de s'achever, Fraîche la Peufra, est numéro 1.
Fraîche la Peufra
est numéro 1 des écoutes France sur Spotify. Déjà plus de 6 millions de streams sur son titre Shop.
Putain de merde, le plan est gâté, je suis en full que ça, la même en perte. Y'a plus de chop, Berlich on va pâter, c'est la bêtise là-bas que je kiffe, faut que la chop.
Et puis on peut citer,
les gens l'écoutent plusieurs fois pour comprendre les paroles.
Mais bien sûr, mais vous savez, c'est la particularité du rap, c'est que c'est très streamé plusieurs fois, oui. Pas forcément pour comprendre les paroles.
Moi,
vous savez que c'est un genre très très écouté, très respectueux.
Sais.
On peut aussi citer les 2 millions de vues sur l'extrait YouTube de la finale sur Netflix et puis les 2 autres millions sur son clip officiel. Clip qui est sorti il y a 2 jours seulement. Les candidatures risquent donc d'être très nombreuses pour participer à cette deuxième saison.
L'émission Nu et culottée, ma préférée, fête sa 10e saison ce soir.
Ah oui, alors vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette émission de France 5 où deux amis, deux aventuriers, Nance et Moots, partent voyager nus, sans vêtements, sans argent, sans rien en fait, à part leur sympathie et leur envie de rencontrer tous ceux qui croiseront leur route. Et des rencontres, il y en a eu. Ils ont fait le compte, 2000 en 10 ans, car la nudité est en fait un formidable prétexte pour rencontrer des gens. Ils ne sont pas seulement nus physiquement, mais aussi émotionnellement. Et ça permet de nouer des liens plus facilement sur la route. C'est ce que Nance m'a confié.
C'est assez drôle d'ailleurs. Ça, c'est un des trucs qu'on n'avait pas imaginé quand on est parti. C'est que nous, en se privant d'argent et de vêtements, ça nous a mis dans une grande vulnérabilité dès les premiers voyages. Et en fait, en se retrouvant comme ça et en formulant des demandes aux gens qu'on allait rencontrer sur la route, ben, par effet miroir, les gens aussi se mettent dans leur cœur et nous ouvrent plus que leur maison. En fait, souvent, nous ouvrent aussi leur cœur. Et ça donne lieu à ces rencontres assez étonnantes où au bout de quelques minutes ou quelques heures de rencontre, ils nous disent des choses que parfois ils ne disent même pas à leurs proches. Il y a quelque chose qui se passe, une magie, du fait qu'on est très disponible sur la route. On a du temps, et forcément, quand on a du temps, les gens se détendent, et quand ils se détendent, ils sentent en confiance de livrer des histoires plus intimes.
30 000 km parcourus par tous les moyens de transport possibles. Ils ont même fait du stop en jet privé, pas
génial,
mal.
Génial, ouais. Génial, c'est ce qui s'appelle se mettre à poil totalement.
Et pour revenir sur ces moments marquants de l'émission, France 5 propose ce soir un épisode un peu particulier, une sorte de best-of. Cette fois, le duo ne part pas sur les routes, mais accueille 6 personnes qui ont marqué l'histoire de Nu et culottée dans un chez-eux éphémère, une cabane dans les bois. L'occasion de faire un bilan de ces 10 années passées à arpenter les routes et à relever les défis plus fous les uns que les autres. Alors Nance et Moots ont revu tous les films de leurs aventures.
Très émouvant en fait, de nous voir évoluer, de nous voir notre physiquement évoluer, de voir notre manière de voyager aussi évoluer, de voir toutes ces expériences, toutes ces rencontres. Ça nous a permis de faire le calcul qu'on a passé environ 500 nuits chez l'habitant depuis le début. On en a passé seulement 15 dehors. C'est-à-dire que même pas 3% des nuits ont été un échec en fait pour dormir chez l'habitant. Avec le temps, avec le recul, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle sur l'état de santé de la société que nous, on a rencontré en tant que vagabond. Moi qui ai grandi dans un monde où on me disait fais attention, on ne parle pas à l'inconnu, l'inconnu est potentiellement dangereux. Là, on a vécu une autre expérience.
Donc, quand ils vont chez les gens, ils sont à poil, vraiment.
Au fur et à mesure, ils s'habillent un petit peu. Et puis, dès la première séquence, en réalité, ils essaient de s'habiller avec des herbes ou avec un peu ce qu'ils trouvent dans les environs, on va dire. Nance, donc, que vous avez entendu, qui est la moitié du duo de Nu et culotté, c'est l'émission spéciale est diffusée ce soir à 21h sur France 5. Et puis, il y aura des émissions inédites les lundis suivants. Vous pourrez notamment suivre leur dernier défi complètement fou, comment ils ont organisé un concert de piano au pied d'un glacier.
On termine ce journal avec 2 actualités séries.
Why Woman Kill n'aura pas de 3e saison. C'est une série du créateur de Desperate Housewives, Mark Cherry. Décision étonnante puisqu'elle avait pourtant été officiellement renouvelée, mais il faut croire que la plateforme Paramount Plus a finalement changé d'avis. Elle n'a d'ailleurs pas justifié ce choix, simplement remercié les équipes de la série. Et puis, autre actu, l'actrice Kate Winslet va à nouveau jouer dans une série, à nouveau pour la chaîne HBO, comme c'était le cas pour l'excellente Mare of Easton. Là, il ne s'agit pas du tout d'une suite, mais d'un tout autre projet, l'adaptation d'un roman américain baptisé Trust.
Merci Louise Bernard. Toutes ces infos seront retrouvées dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant sur Europe 1, l'infomédia du jour, c'est un documentaire Arte, Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes. Documentaire qui vous dévoilera quel est le produit à l'origine de la mort de millions d'insectes, dont les abeilles, et les conséquences terribles pour notre environnement et pour nous. À la genèse de ce documentaire, co-réalisé par Miyuki Aramaki, un livre enquête du journaliste du Monde, Stéphane Foucard. Ils sont avec nous dans ce studio.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Olivier Benkemoun.
Connaissez-vous les néonicotinoïdes, mots barbares mais réels, pesticides à l'origine de la mort de millions d'abeilles? De nombreux débats et reportages leur ont été consacrés avant le vote d'une loi en 2016 actant leur interdiction en France. En 2018, oui, mais voilà, depuis 2018, les dérogations se suivent car certaines filières n'arrivent pas à s'en passer et les insectes continuent de mourir de manière inquiétante. Cette disparition, 8 fois plus rapide que celle des mammifères, est aujourd'hui considérée comme la 6e extinction d'espèces de l'histoire. Un documentaire diffusé demain soir sur Arte fait un état des lieux peu optimiste de la situation. La réalisatrice de ce documentaire est avec nous, Miyuki Aramaki. Vous êtes journaliste et la co-auteure de ce documentaire, Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes. Stéphane Foucard, vous êtes journaliste au Monde, auteur du livre Enquête et Le Monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes, paru en 2019 et qui a été le point de départ de ce documentaire. Et vous faites partie des intervenants interrogés dans ce film. D'abord, peut-être rappeler, Stéphane Foucard, ce qu'est un néonicotinoïde.
Alors, les néonicotinoïdes, c'est une famille d'insecticides extrêmement puissants, hein, probablement les insecticides les plus puissants jamais synthétisés par l'homme, et qui sont utilisés depuis le milieu des années 90 en Europe d'une manière un peu particulière, parce qu'ils sont utilisés en enrobage de semences, c'est-à-dire en fait ce qu'on plante dans la terre, les graines qu'on plante dans la terre sont enrobées du toxique, et la plante, quand elle pousse, s'imprègne totalement de ce toxique tout au long de sa vie. Ce qui veut dire que tous les tissus de la plante, hein, les racines, la tige, les feuilles, le pollen, la fleur, tout est imprégné par cet insecticide.
Ça signifie que même si on les lave, on dit toujours qu'il faut laver les aliments avant de les consommer à cause des pesticides, là ça ne sert à rien.
Alors pour les cultures qui ont été traitées comme ça, oui, ça ne sert à rien.
Ouais. Tout un chacun peut s'apercevoir de la disparition des insectes. Et vous commencez d'ailleurs comme ça le documentaire avec ce que vous appelez le test du pare-brise.
Tout à fait. Voilà, il y a quelques décennies, n'est-ce pas, quand vous partiez en vacances, vous rouliez des kilomètres, évidemment, il fallait s'arrêter chaque X heures pour nettoyer son pare-brise. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui a totalement disparu. Et quand on en parle aux gens qui ont en effet 40, 50, 60 ans, tout le monde dit « Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. »
Moi, je me souviens très bien.
Voilà.
Tous ces petits insectes.
Et ils étaient considérés comme une nuisance. Donc, évidemment, en tant qu'être humain, c'est pratique. On n'a plus besoin de nettoyer sa voiture et son pare-brise le long de la route des vacances. Mais en fait, c'est malheureusement le syndrome d'une disparition dramatique de ces petites bêtes.
Évidemment, il y a des conséquences. On va en parler, mais Miyuki Aramaki, pourquoi d'abord avoir voulu réaliser ce documentaire? Est-ce que vous aviez d'abord été bousculé par le livre de Stéphane Foucard?
Oui, oui, le point de départ de ce documentaire, c'est vraiment le livre de Stéphane Foucard, les chiffres qui sont exposés à l'intérieur et ce désir en fait de faire un film sur un thème environnemental qui est important, dont on parle régulièrement. Vous l'avez cité par rapport aux abeilles ou par rapport à des disparitions d'oiseaux par exemple, mais où on avait envie aussi à travers ce livre et on avait l'impression qu'il donnait une image plus globale de la thématique. Non seulement du constat de la disparition, mais aussi des causes et des explications de pourquoi on en est là, alors que la science a prouvé depuis des années que c'est un problème.
Il y a une chose, quand on fait un livre, et un livre enquête, on a des tas d'intervenants, parfois qui parlent sous couvert de l'anonymat ou qui ne parlent pas directement. Bon, quand on fait un film, en revanche, il faut des intervenants face caméra. Donc, est-ce que vous avez repris les mêmes intervenants et est-ce que vous avez réussi à les convaincre?
Une partie, oui, des intervenants du livre de Stéphane Foucard ont accepté de participer. Nous, on a aussi été plus loin, notamment en interviewant l'inventeur des néonicotinoïdes, qui est donc un scientifique japonais qui n'avait jamais parlé à la presse occidentale et qui est un monsieur qui défend son travail, n'a pas beaucoup de remords. Lui considère que qu'il a fait avancer et la science et l'agriculture parce que, et c'est vrai, à l'époque, quand il l'a inventé, le néonicotinoïde néonicotinoïdes était un progrès par rapport à la fumigation de pesticides qui a elle aussi des dangers.
On a beaucoup entendu parler de cet insecticide tueur d'abeilles dans les médias. Dans votre documentaire, on apprend plus concrètement comment les abeilles meurent de manière très lente, assez affreuse. Explication de Béatrice Robrol-Marie, apicultrice et présidente de l'ONG Terre d'Abeilles, et de Jonathan Lugren, entomologiste.
Ces effets que les scientifiques ont découverts, qui s'appellent subletto, c'est-à-dire qui ne génèrent pas la mort immédiate des abeilles, mais une mort lente.
Elles ne retrouvent plus leur chemin, elles ne peuvent plus réguler la température de la ruche, elles oublient comment être des abeilles.
C'est l'Alzheimer des abeilles. Elles vont par exemple aller butiner les pétales de la fleur de tournesol, butiner des fleurons qui sont fanés. Et puis elles vont se frotter les antennes, se frotter l'abdomen, avoir comme des convulsions, prises de tremblements, et on les voit en train de butiner et tout d'un coup, hop, s'effondrer par exemple sur la feuille de la fleur de tournesol. Et puis descendre et puis tomber jusqu'au sol et agoniser.
Stéphane Foucard, est-ce que le combat contre ces pesticides tueurs d'abeilles a réussi à percer auprès du grand public ?
Alors probablement pas complètement, sinon on n'en serait pas là, on n'en serait pas à redonner à nouveau des dérogations d'usage à ces produits en France, qui est un des premiers pays à les avoir interdits. Ce qu'il faut peut-être dire à propos de l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'on parle beaucoup des abeilles, parce que les abeilles ont des représentants humains auprès de nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tirent parti de l'activité des abeilles, les apiculteurs qui produisent du miel, louent leur ruche pour la pollinisation, etc. Mais ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est que le problème des abeilles, c'est simplement la partie émergée de l'iceberg. Les abeilles sont probablement les insectes qui sont les plus résilients à ces produits, parce qu'elles sont organisées dans des grandes colonies, des grandes structures sociales qui ont des capacités d'adaptation, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas des papillons, des bourdons, des cires, enfin de tout le reste qui disparaît et dont on ne parle finalement jamais.
Mais il y a toute la chaîne alimentaire en réalité qui est touchée. Vous prenez l'exemple du rouge-gorge. Bon, pour un rouge-gorge, pour nourrir ses petits, il lui faut des tas et tas d'insectes qu'il ne trouve plus.
Oui, il lui faut 700 insectes pour survivre et nourrir ses enfants. Et c'est l'un des problèmes de la disparition des insectes, qui est facile à comprendre. Mais au-delà de la chaîne alimentaire, il y a le problème de la pollinisation, il y a le problème du nettoyage du filtre des cours d'eau, par exemple, la décomposition des animaux morts. Enfin, tout ça, ce sont des services gratuits qui sont rendus par les insectes.
Reste avec nous sur Europe 1, on marque une pause, on revient dans un instant.
Vous pouvez faire le tour du rond-point
ou chiner un 33 tours,
tenter un tour de magie
ou encore faire le tour de la question.
Mais question émotion, rien ne vaut un tour de France.
Le Tour de France 2022 sur Europe 1, c'est un journal complet dans Europe Matin.
Richard Virenque comme consultant, des points sur l'étape du jour.
Et de nouveau un journal complet dans Europe Soir.
Rendez-vous tous les jours sur Europe 1, europe1.fr et votre appli.
À tous ceux qui font glisser leur couteau sur le bord du pot de Nutella pour découper l'opercule. Aux maniaques qui grattent les petits bouts d'alu doré pour qu'il ne reste vraiment rien. Et à ceux qui, à la fin du pot, raclent tous les bords au doigt. Ben oui, pour pas gâcher. Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le pot de 1 kg de Nutella, soit 3,62€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 10 juillet, prix payé en caisse 5,49€, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Tous les produits que vous venez d'entendre ont été fabriqués en France. Sur la grande boutique d'Amazon, trouvez ce que vous cherchez parmi plus de 500 000 références fabriquées en France. Et ça va faire du bruit.
Les soignants, vous les soutenez, vous les admirez. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui vous disent merci. Car en donnant votre sang, vous les aidez à faire ce qu'ils ont toujours fait, sauver des vies. Rejoignez le mouvement Donneurs de sang, tous soignants. Prenez rendez-vous dès maintenant sur le site de l'Établissement français du sang.
Chaque jour, des millions d'hôtes accueillent des voyageurs chez eux avec Airbnb. D'ailleurs, vous aussi, vous pourriez compléter vos revenus en louant votre logement. Vous hésitez encore à vous lancer ? Alors, nous avons mis en place une protection complète pour que vous puissiez accueillir des voyageurs en toute sérénité. Cette protection, c'est AirCover. Et elle vous permet d'être protégé à chaque fois que vous accueillez des voyageurs. Comme ça, votre logement et vos objets sont couverts et vous, vous êtes tranquille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airbnb.fr/aircover pour les hôtes.
Alors ça, c'est pour la brasse, elle pour le crawl, celle-là pour le papillon. Non, attends. Elle, c'est pour le crawl et elle pour le papillon. À moins que ce soit l'inverse.
C'est pas parce que pendant les soldes Cdiscount, il y a de grosses réductions sur nos piscines qu'il faut acheter toutes nos piscines. Entrez dans le grand bain avec les soldes chez Cdiscount. Profitez de réductions jusqu'à -50% sur des milliers de produits. Cdiscount, pour une vie pas Discount.
Soldes jusqu'au 19 juillet inclus sur les produits signalés, voire conditions sur le site.
Leclerc.
Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Ça sent le pain chaud.
Ben normal, ils cuisent du pain toute la journée chez Leclerc.
Regarde-moi ces baguettes trois meuniers. Au blé français, cultivé dans le respect de l'environnement.
Et pour trois baguettes de 250 grammes achetées, la quatrième est offerte.
Ça sent vraiment la bonne affaire.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 5 au 10 juillet, 411 sur nos 633 magasins réalisent des fournées toute la journée. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes, documentaire qui sera diffusé demain soir sur Arte. Nous sommes avec Miyuki Aramaki. Vous êtes, je le rappelle, la réalisatrice, et Stéphane Foucard, journaliste au Monde, auteur de l'enquête qui a amené à la réalisation de ce documentaire. Combien d'années de travail pour vous, Stéphane Foucard?
10 ans.
10 années.
Ouais.
C'est plus rapide de faire de la télé en général. Vous avez mis combien de temps?
2 ans, on va dire.
Mais c'est un vrai documentaire scientifique. Comment avez-vous pu vérifier chaque information?
Nous, on s'est beaucoup basé sur le travail de Stéphane. Comme il l'a dit, il a passé 10 ans dessus. C'est un vrai journaliste scientifique. Nous, ce n'est pas notre spécialisation. En télévision, on est plutôt des réalisateurs. Et donc, pour la partie, voilà, les preuves scientifiques, je m'en remets à mon camarade.
Mais à la fin du documentaire, vous précisez que les propos tenus dans ce film s'appuient sur des études scientifiques publiées et consultables sur Internet. Pourquoi cette précision a-t-elle été nécessaire?
Le consultable sur Internet, vous voulez dire? C'était pour justement les gens qui trouvent que notre documentaire soit à l'air d'aller dans ce qu'ils pensent ou qui voudraient le contredire, pour que ces gens puissent savoir voilà, comment trouver les éléments sur lesquels on s'est appuyé, sur lesquels on... les preuves ou en tout cas les études qui atteignent ce qu'on avance dans ce documentaire.
Parce que ça a été contredit. Évidemment, quand vous avez travaillé là-dessus, vous êtes aperçu à quel point les études scientifiques étaient contredites par les géants qui vendent ces insecticides.
Bien sûr. C'est ce qui arrive à chaque fois que vous mettez en cause la sécurité d'usage ou l'utilité d'un produit qui représente des milliards d'euros de chiffre d'affaires pour des grandes entreprises. Ça a été le cas pour la cigarette, ça a été le cas pour le changement climatique et la responsabilité de la combustion du pétrole, du gaz, du charbon. Et c'est évidemment le cas pour la responsabilité de l'agrochimie dans l'effondrement des populations d'insectes auxquelles on assiste aujourd'hui.
Alors les insecticides tuent les insectes, mais entraînent également la disparition de toute une biodiversité et d'une économie. Exemple, au Japon, vous avez tourné au Japon, au lac Shinji, où dans les années 90, des poissons très appréciés des Japonais ont disparu en un an. Une seule année, tout a disparu. Vous avez rencontré un pêcheur, il s'appelle Masaaki Fukada.
Au lac Shinji, on faisait de gros chiffres d'affaires grâce aux éperlans. À une époque, un seul filet remplissait le bateau. Rien que des perlans. En 1994, les éperlans ont tout à coup disparu. Cette disparition a complètement transformé le lac. J'en ai fait une dépression. Je n'avais jamais vécu ça auparavant.
Stéphane Foucard.
Oui, je crois que c'est un des passages les plus forts du film, en fait, où ce vieil homme raconte un petit peu le bouleversement auquel il a assisté en 93-94, quand toute la pêcherie du lac s'est effondrée. On parle de plus de 300 tonnes par an de poissons qui étaient ramenés. La pêcherie était gérée de manière durable. Hein. Chaque année, pourvoyait énormément de poissons. Et vous posiez la question tout à l'heure des preuves, de la véracité de ce qu'on raconte. Ce témoignage, en fait, il est issu d'un travail qui a commencé avec une étude scientifique japonaise qui elle-même a documenté le fait que c'est bien l'utilisation d'une petite dose d'imidacloprid dans cette préfecture en mai 1993, qui est la cause directe et unique de l'effondrement de la pêcherie quelques mois plus tard.
Mais on voit très bien, dès les années 90, que l'enquête scientifique est menée, et depuis...
Alors, oui et non. Parce que c'est ça qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on réalise parfois les choses avec retard, et en particulier sur cette histoire du lac Shinji et de la pêcherie qui s'effondre. Les événements se déroulent au moment de l'introduction de l'imidacloprid, donc un de ces fameux néonicotinoïdes en mai 1993, mais la publication scientifique n'intervient qu'en 2019, donc 25 ans plus tard. Et avant 2019, ces pêcheurs du lac Shinji ont vu leur pêcherie s'effondrer sans avoir la moindre idée de ce qui s'était produit.
Il y a l'alerte incontestable sur la disparition des insectes, mais il y a aussi tout un secteur économique qui dit ne pas pouvoir se passer de ces produits. Je parle évidemment d'une très grande majorité des agriculteurs. Vous êtes allé à la rencontre d'un agronome italien, s'appelle Lorenzo Furlan, qui a fait des études comparatives sur la longue durée entre des parcelles sous insecticides et d'autres sans traitement. Et les résultats sont spectaculaires.
Dans 99% des parcelles que nous avons suivies, semées depuis des décennies, il n'était pas nécessaire d'utiliser un néonicotinoïde. Mais il n'était pas nécessaire d'utiliser un autre insecticide. En fait, il n'y a jamais eu besoin du moindre insecticide. Point final.
Le même travail, en fait, a été fait au Canada, sur le soja, ou de la même manière. On se rend compte que dans 95% des cas, ces produits ne servent à rien puisqu'il n'y a pas les ravageurs contre lesquels ils sont censés lutter sur les parcelles traitées.
C'est inadmissible que pour un risque de 1%, on traite l'ensemble du champ avec un impact environnemental élevé, des coûts élevés et aucun bénéfice pour l'agriculteur et encore moins pour la communauté.
Stéphane Foucart, si cela ne sert à rien, comment expliquer que l'ensemble des agriculteurs conventionnels disent ne pas pouvoir s'en passer ?
Alors c'est beaucoup de la force de vente, hein. C'est beaucoup parce qu'on vend ces produits et qu'on a des bons arguments pour les vendre aux agriculteurs qu'ils continuent à les utiliser, en tout cas à les utiliser aussi massivement et de cette manière-là. Il faut bien comprendre, ce sont des produits qui sont en réalité des assurances. Ce ne sont pas des produits qui sont utilisés pour lutter contre un ravageur lorsque le ravageur survient sur la parcelle. C'est un petit peu nous, les profanes, l'idée qu'on se fait de l'utilisation de l'agrochimie. Quand l'agriculteur voit un ravageur, eh bien, il utilise le produit.
Voilà. C'est... On est sûr de ne pas avoir de ravageur.
Absolument.
C'est la garantie de ne pas avoir de voyageurs. Aucune firme agrochimique n'a souhaité répondre à vos demandes de tournage. Les arguments ?
Oh, les arguments, ils étaient assez basiques de dire voilà, qu'ils ne sont pas le principal vendeur, qu'il faut s'adresser à leur syndicat, à leurs représentants, qu'ils sont là pour ça. En gros, la plupart des entreprises n'ont même pas vraiment répondu. Mes mails sont juste tombés dans l'oubli.
Que font les agences réglementaires ? Que fait le commissaire européen aux pesticides ?
Officiellement, ils interviennent. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là aussi, il y a du lobbying. Les agences réglementaires mettent en place des tests. Il faut des années et des années pour déjà déterminer comment les tests peuvent être développés, quelle est la bonne dose de pesticides à autoriser ou pas. C'est énormément de travail et pour ça, il faut aussi des spécialistes au sein des institutions européennes qui comprennent quels sont les enjeux derrière. Et vous parliez des effets sublétaux au début de l'émission avec la mort de ces abeilles qui est lente, qui n'est pas immédiate. C'est des effets qui sont beaucoup plus difficiles à prouver. Et donc, du coup, il faut que les tests soient adaptés à ces effets sublétaux.
Alors, on a vu les effets sur les insectes, sur l'homme, il y en a ou pas ?
Il y a très peu de données, en fait, sur l'effet de ces néonicotinoïdes sur l'homme. Les biomarqueurs, c'est-à-dire les indices de l'exposition des populations humaines n'ont même pas été développés. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de mal les épidémiologistes ont beaucoup de mal à travailler sur des cohortes humaines pour déterminer les effets possibles de l'imprégnation. On commence à avoir des indications sur le neurodéveloppement, le développement du cerveau des enfants in utero, hein, lorsque leur mère est exposée, et sur certains cancers, en particulier le cancer du foie.
Merci Stéphane Foucart, merci Miyuki Aramaki. Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes ? C'est à voir demain soir à 20h50 sur Arte, c'est absolument passionnant. Ça fait un peu peur aussi, hein. Le constat est pas terrible. Documentaire co-réalisé avec Sylvain Lepetit et Sébastien Séga. Dans un instant, restez bien avec nous. Culture Média continue avec notre invité Jean-Baptiste Martinon qui apporte le dessert, qui apporte surtout une toute nouvelle émission de Voyage sur C8. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Olivier Benkemoun.
J'apporte le dessert. C'est le nom d'un nouveau magazine de voyage qui démarre demain soir sur C8. Concept très original que l'on doit à un jeune homme de 26 ans qui est avec nous, Jean-Baptiste Martineau. Bonjour.
Bonjour Olivier.
L'idée, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est véritablement apporter le dessert.
Exactement. Je crois que le nom de l'émission dit tout.
Voilà. Mais comme toujours, ce qui compte, c'est pas le but, c'est le voyage.
Oui, ça c'est le moyen. C'est un moyen de rencontrer les gens. C'est vraiment une émission de découverte où je parcours la France à moto électrique et je vais rencontrer des gens. À chaque fois, la porte d'entrée, c'est de leur apporter un dessert typique du coin. Et puis après, on voit ce qui se passe.
Mais il se passe quoi?
Il se passe plein de choses. C'est vraiment des rencontres, des activités typiques des régions. Donc ça va être faire du planeur au-dessus des Alpilles, aller préparer des crêpes avec Joséphine en Bretagne, aller faire des cannelés à Bordeaux, aller voir des grands-mères dans les Bauges. Enfin, voilà,
Donc c'est une émission de rencontres avec parfois des grands-mères, une émission avec des défis sportifs et une émission avec de la pâtisserie quand même.
Voilà, évidemment. Il y a les desserts. Alors les desserts, soit je les récupère chez des artisans réputés et parce que c'est typique du coin, soit j'apprends à les fabriquer. Moi, je ne suis pas du tout pâtissier. Je n'étais même pas très dessert en fait à la base.
Non, mais vous êtes doué hein, parce que plusieurs fois, vous contribuez à faire de la pâtisserie. Vous êtes pas mal hein, avec la poche à douille.
J'ai le rôle du commis, moi, en général.
Bah, c'est déjà pas mal pour cette émission. Alors, ça commence demain soir.
Ouais.
Objectif de la première émission. Ça se passe dans le sud de la France, en Provence. Amener de la rocaille au Mont Ventoux. Rocaille, c'est quoi?
Alors, la rocaille, c'est une meringue de la maison Jouveau à Carpentras qui a créé cette meringue en forme de pierre, comme celle qu'on peut retrouver au sommet du Ventoux, qui laisse penser qu'il y a de la neige parfois. Et c'est un mont mythique du cyclisme, un mont mythique aussi de la Provence. Et l'idée, c'était d'aller en haut et de le partager avec quelqu'un là-haut, s'il y a quelqu'un.
Démarrage de l'émission à Cassis, les Calanques, et vous nous emmenez jusqu'au Mont Ventoux. Donc, première rencontre à Cassis avec celui qu'on appelle l'ange des Calanques, un plongeur de l'extrême. C'est d'ailleurs le recordman mondial du saut de falaise. Il s'appelle Lionel et il vous a fait sauter.
Eh oui, moi j'avoue que j'ai un peu le vertige. Là, on a sauté, vous verrez, mais on a sauté à 9 mètres dans ce cadre magnifique avec vue sur la mer, Cassis, etc. Ça démarre très fort dans cette émission et après, je remonte sur ma moto puis j'embarque vers Marseille.
On a oublié de lui dire ce que vous lui avez amené, du chichi.
Oui, le chichi frégi qui est spécialité de l'Estac à Marseille, qui est c'est des churros. Cette forme de chose.
Il y en a dans toute la Provence, mais la particularité, c'est la farine de pois chiche. C'est très léger, du coup. Et vous le dites dans le documentaire, c'est un des produits phares de la street food marseillaise.
Je vois que vous avez regardé.
Ouais. Il n'y a pas que des chichis, hein. Il y a aussi un chef qui revisite le calisson avec un biscuit incroyable aux amandes, du basilic du jardin, enfin, des produits qui sont des produits de la région.
Oui, c'est dans un magnifique château, on allait préparer un calisson revisité sous forme de dessert un peu frais avec du basilic, de la crème de citron. Et ça, je l'apporte ensuite à un pilote de planeur. Et je crois qu'on n'aurait pas dû le manger avant le vol.
Ah ouais? Vous savez quoi? On va écouter ce qui se passe dans le planeur, parce que vous avez fait du planeur au-dessus des Alpilles, au-dessus des Galières, la tête à l'envers, extrait de l'émission de demain soir.
Bon, on va tranquillement se retourner la crêpe, comme on dit chez nous. On est parti pour un looping. Oh! Et c'est parti. Oh! Oh, c'est hallucinant!
La tête à l'envers.
C'est quoi?
Wow. Regarde.
Ah, j'ai l'impression d'être astronaute. Waouh!
Voilà, on va se faire un petit tonneau, j'y vais. Va loin devant. Ne ferme pas les yeux.
Ah, c'est incroyable! Oh. Ah, j'ai des fourmis partout! Ah.
Ça va, JB?
Ah ouais.
JB, l'atterrissage a été difficile.
J'ai eu du mal à me relever, oui.
Mais très difficile. Ouais, moralité, faut pas manger avant de faire du planeur.
Et surtout avant de faire des loopings en planeur, je savais même pas que c'était possible.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une moto électrique et ça fait partie du principe de l'émission parce que pour dormir, il faut recharger.
Exactement.
Enfin, le soir, il faut recharger. Donc, quand vous allez chez les gens, non seulement vous leur apportez du dessert, mais il faut recharger la bestiole.
Ouais,
partie du voyage.
C'est la contrepartie. J'apporte le dessert, je demande l'hospitalité et un petit peu d'électricité.
Un petit peu d'électricité. Alors, vous avez fait ça il y a déjà un moment sur vos chaînes et réseaux sociaux, mais là, vous arrivez avec une équipe de télévision. Vous dormez, les autres, ils font quoi, hein? Ceux qui cassent, ceux qui prennent le son, etc.
Alors, c'était un peu l'inconnu, mais moi, depuis toujours, je fais ces voyages tout seul que je partageais sur mon compte Baba Oren. Ça a démarré comme ça. Et après, là, j'arrive tout seul chez les gens encore dans l'émission, avec une GoPro juste sur moi, un peu en mode
caméra
embarquée. Et après, mon équipe me rejoint pour présenter les gens qui acceptent de m'accueillir et repart ensuite à l'hôtel. Et moi, je reste tout seul chez les gens et je filme avec mon téléphone le soir ou une petite caméra.
Ça a l'air tellement simple pour vous de rentrer chez les gens, de vous faire inviter, extrait.
Bonsoir. Oh pardon, je vous ai fait peur, désolé. Désolé de vous déranger. Je fais un petit voyage à moto, là, pour découvrir la région. Et le principe, en fait, c'est que je récupère des desserts un peu à droite à gauche, où je les fabrique. Et en échange de ces desserts, bah, je vous apporte le dessert et je voulais savoir s'il était possible de passer la nuit chez vous avant de repartir demain matin.
Mais oui.
C'est possible ?
D'où il y a de la place à côté, il n'y a aucun souci.
Est-ce que j'arrive pendant votre dîner ? Je sais pas.
On n'a pas dîné, on allait faire.
On est en train de se préparer.
Des frites, des escalopes de. Porc.
De ouais.
Eh bah super.
Bonne salade du jardin qu'on va aller ramasser voilà. Là-bas. Et des petits pois.
Bah, c'est parfait. Vous savez, en plus, je me suis dit, tiens, c'est marrant, de la route, on voit votre maison. C'est pour ça que je suis venu. Hein.
Et en plus, il n'y a pas de portail.
Déjà, il n'y a pas de portail, donc c'est plus facile pour venir.
Alors voilà.
Et je me suis dit, ça a l'air très authentique, très sympathique ici. Donc, et en fait, je me suis pas trompé, donc je suis super content.
Ouais. Mais on va préparer ça.
Au revoir, l'équipe. Vous n'êtes pas invité. Merci de dégager la route.
Très sympathique. Non, mais les gens sont sympathiques avec vous. Les gens du Sud, là, c'est des Provençaux, mais c'est la même chose en Bretagne. Ils vous accueillent, ils vous font à manger. Et puis en plus, vous avez, c'est bonne pioche hein, à chaque fois.
Alors, ouais, bah, tous ceux qui m'accueillent sont très sympas et j'ai toujours été étonné, mais partout, j'ai fait ça partout en France, même tout seul, et j'ai toujours été très bien accueilli. Parfois, il faut demander dans quelques maisons. Là, on a entendu Mathilde et Yval dans les Alpilles. Qui ont vraiment préparé les frites et je suis arrivé au bon moment et à chaque fois j'ai un bon lit.
C'est bizarre hein, ce sens du timing.
Ouais, j'arrive toujours juste avant le dîner.
Ouais. Et le reste encore une fois de l'équipe parfois est invité aussi.
Alors c'est ça qui est génial, c'est ouais. Que déjà j'ai une équipe qui est très jeune et très sympa, qui est à fond et qui est invitée à boire un coup, à partager un moment avant de repartir.
Ouais. Tout à l'heure vous nous direz, et les auditeurs d'Europe 1 découvriront si vous avez vraiment amené le dessert jusqu'à nous.
Oui, je l'ai là.
Ah, mais on vous dira quoi dans un instant. On marque une pause, on revient dans un instant sur Europe 1 Culture Média, la suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
Europe 1, Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Le barbecue est dans le jardin, prêt pour les grillades de l'été, mais est-ce vraiment le meilleur moyen de cuisson pour la santé et pour le goût ? Au four, à la plancha ou à la vapeur douce, dans Bienfait pour vous, on passera en revue les différentes façons de cuisiner la viande et les légumes pour en tirer le meilleur.
Bienfait pour vous.
Alors à tout à l'heure, dès 11h sur Europe 1.
Eh oui, on est comme ça chez Ixina. Pour vous, on ne fait pas les choses à moitié. En ce moment, profitez de soldes jusqu'à moins 50% sur les cuisines et l'électroménager d'exposition. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions en magasin. Ixina, réélue meilleure chaîne de magasins de l'année.
Les soignants, vous les soutenez. Vous les admirez. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui vous disent merci. Car en donnant votre sang, vous les aidez à faire ce qu'ils ont toujours fait. Sauver des vies. Rejoignez le mouvement Donneur de sang, tous soignants. Prenez rendez-vous dès maintenant sur le site de l'Établissement français du sang.
Connaissez-vous Jules Eugène Le Nepveu ? Artiste du 19e siècle, il a peint de prestigieux décors pour le musée du Louvre, le Panthéon et même le premier plafond de l'Opéra Garnier à Paris. Aujourd'hui, Angers, sa ville natale, lui rend hommage. L'exposition Jules Eugène Le Nepveu, peintre du Monumental, est à découvrir au musée des Beaux-Arts d'Angers jusqu'au 8 janvier 2023. Avec Europe 1.
Bonjour.
Hello.
Coucou. Ok, c'est moi. La perce sans fil dont vous rêviez. Amazon Prime Day est de retour les 12 et 13 juillet. Et on est tous en vente flash.
Alors, qui veut s'offrir un mixeur grande capacité comme moi?
Et ne m'oubliez pas, la brosse à dents électrique. Je suis dans votre panier depuis trop longtemps.
High-tech, maison, cuisine et plus encore. Profitez des ventes flash exceptionnelles dont vous rêviez. Amazon Prime Day les 12 et 13 juillet. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Amazon Prime est un abonnement payant, voire tarif et conditions sur amazon.fr/prime.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Nous sommes avec Jean-Baptiste Martinon. Je rappelle que votre nouvelle émission, c'est une émission de voyage, démarre demain soir sur C8. J'apporte le dessert. Pour vous situer, vous avez... 26 ans, vous êtes journaliste, animateur
27.
De radio. 27
ouais, maintenant.
Ah, depuis peu de
temps. J'ai grandi.
Sur les réseaux sociaux, vous êtes connu. Vous l'avez dit comme Baba au Run.
C'est ça, exactement.
Parce que ?
Alors en fait, il y a 3 ans, j'ai lancé un service de livraison de pâtisserie en courant qui s'appelle Baba au Run. Et je commençais par livrer des Baba au Rhum, tout simplement dans Paris. Ça a bien marché.
Ouais, vous avez livré un nombre hallucinant de desserts.
Exactement, j'étais même venu en livrer ici il y a 3 ans.
Ouais.
Et depuis, bah, ça a bien bougé, mais j'allie toujours la découverte, la pâtisserie et les défis.
J'ai lu plus de 1600 desserts en parcourant un nombre de kilomètres hallucinant.
Ouais, je crois que c'était plus de 2000, ouais.
Vous n'avez pas livré que des desserts d'ailleurs, vous avez livré des petits mots.
Ah oui, le messager créatif, ça c'était en janvier. J'ai créé un service de livraison de petits mots, on allait remettre un peu du monde réel dans les messageries. Donc les gens me passaient commande et j'allais courir dans Paris, même partout, je l'ai fait dans pas mal de villes. Mmh. Et j'allais déposer un mot à la craie devant la porte des gens en fonction des commandes. Que des mots bienveillants.
C'est-à-dire, on vous laissait des mots, vous les écriviez à la craie devant la personne qui devait être la destinataire de...
C'est ça, vous me demandez de faire une déclaration à un ami et je vais écrire devant sa porte, il se réveille et il voit un petit mot d'Olivier écrit à la craie.
Voilà, et les gens sont toujours heureux.
Ils adorent. Ouais. En tout cas, ils ont bien aimé. Et j'ai encore beaucoup de demandes.
Ouais. Il n'y a jamais eu de problème, d'étonnement, de...
Non, il y en a qui voulaient passer des messages un peu politiques, mais je suis resté sur des choses très bienveillantes.
Ouais. Vous êtes fils de militaire.
Oui.
Ça forge un caractère.
Ouais, je pense que moi, en tout cas, j'ai
la détermination.
Mon père, il nous a toujours dit, si pour être libre, soyez des bons élèves, et après vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je voulais pas être militaire, mais en tout cas, ça m'a bien aidé, je crois.
Vous n'êtes pas militaire, vous êtes hyperactif.
Oui, c'est ça.
Mai 2022, lu dans Ouest-France, vous êtes lancé pour un menhir-tour de 700 km en 4 jours.
Oui, alors j'aime bien les défis un peu folkloriques. Là, l'idée, c'est d'aller voir les plus beaux menhirs de Bretagne à vélo en 4 jours. Donc pareil, je dormais chez les gens le soir en leur apportant des petits menhirs en chocolat. Et la journée, j'allais voir les menhirs les plus impressionnants de Bretagne. Et c'est un peu dans la veine des défis que j'aime bien avoir. J'ai une idée et je vais jusqu'au bout. En novembre dernier, j'étais allé voir si les Danois étaient bien les plus heureux du monde. Donc je suis pédalé de Paris au Danemark et je leur ai demandé tout simplement. Et je peux vous dire qu'ils sont heureux.
C'est qu'ils sont heureux. Vous avez porté des desserts partout en France. Alors, des crèmes Mont Blanc.
Au sommet du Mont Blanc.
En haut du Mont Blanc. Des cannelés.
À Bordeaux.
Évidemment. Et des sablés.
À Sablé. Ça pas encore.
Ah oui, c'est l'objectif.
C'est un des projets, ah, oui.
Okay. Vous échangez, je le disais tout à l'heure, un dessert contre le gîte. Mais c'était déjà le cas le principe de ce que vous faisiez.
Oui, voilà. Bah ça... En fait, c'est plutôt qu'en livrant des desserts, je me suis rendu compte que c'était une super porte d'entrée pour passer un moment avec les gens. Et c'est pas rare qu'on m'ait invité à dîner ou même à prendre une douche ou à passer la soirée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est ces moments... Moi, ce qui me plaît dans la gastronomie, c'est les moments que ça permet de créer et de vivre plus que les recettes. Et donc, c'est ce que j'essaie de raconter dans l'émission.
Le choix des régions que vous avez choisies. Alors, on a parlé tout à l'heure de la Provence. Mais on découvrira la semaine prochaine que vous allez aussi en Bretagne.
Oui, en fait, là, on est allé un peu aux quatre coins de France, et surtout différentes ambiances, la mer, la terre. On était en Corrèze aussi, en Gironde, en Savoie et Haute-Savoie. Enfin, je pense que là, on a un terroir qui est infini là-dessus, et du coup, j'espère qu'il y aura d'autres épisodes.
Semaine prochaine, objectif, livrer un phare breton au phare de Penfret, c'est au large de Concarneau. Et puis, vous allez voyager au Mont-Saint-Michel. Vous avez fait une petite expérience dans les sables mouvants, parce que je le rappelle encore, il y a les desserts, mais il y a aussi l'expérience, le sport et des défis, parfois étranges.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de sauter dans le grand bain et de tester des choses. Et là, c'était dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui est connue pour être merveilleuse, mais aussi dangereuse, avec ses sables mouvants. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à la fois le danger et comment s'en sortir.
Ouais, donc, vous plongez vraiment dans les sables mouvants. Quoi. Bah, restez et vous pataugez.
Ce qui est dingue, c'est qu'on est sur une plage qu'on dirait complètement normale. Et en fait, en tapant des pieds, en 30 secondes, je suis enfoncé jusqu'à la taille. Et si je n'avais pas la technique, je serais encore dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Il y a des régions qui faisont plus que d'autres.
Alors, mon très gros coup de cœur de l'émission et que je ne connaissais pas du tout, c'est le Périgord. Donc, le long de la Dordogne, vraiment magnifique pour son architecture, la gastronomie qui est très forte, et puis les gens que j'ai rencontrés aussi.
Le dessert vient d'abord ou ça vient après le choix du voyage?
En fait, il y a des très bons desserts partout en France. Donc, l'idée, c'est de trouver une région, de tirer un fil qui est le fil de mon road trip. Chaque épisode, c'est un road trip de 4-5 jours. Mmh. Et à partir de là, on trouve des artisans sur la route ou même des gens qui ne sont pas artisans, qui sont des habitants du coin qui savent faire les desserts.
Bon, j'apporte le dessert, c'est le nom de votre émission. Et d'ailleurs, vous ne vous déplacez jamais sans apporter un dessert. Ça n'existe pas, ça fait partie de votre ADN. C'est ce que vous avez fait ce matin sur Europe 1.
Ouais, je crois que c'est ce qui me suit maintenant.
C'est pour ça que les gens vous invitent. Pour être sûr d'avoir un dessert.
Ouais, c'est ça, ils veulent être sûrs d'avoir le dessert.
Moi j'attendais, hein. Vous avez apporté quelque chose?
Eh bien écoutez, oui j'ai apporté, alors je sais pas si c'était le dessert ou le petit déjeuner là, je vous ai apporté une kramik, je sais pas ce que vous aimez.
Une kramik,
c'est d'un pâtissier lillois que j'ai pas vu dans l'émission mais que j'ai déjà vu dans un autre voyage. Vous allez voir, c'est assez sucré, c'est une kramik au sucre, ou bien j'ai aussi apporté le dessert.
Décrivez la kramik.
Alors, la crème mixte, c'est une brioche avec des gros morceaux de sucre dedans qui est absolument délicieux. Je ne sais pas si vous allez la goûter maintenant ou après,
non,
à la pause.
Non, pas tout de suite. Vous pouvez la montrer parce que c'est filmé sur Europe 1.fr.
Ah oui, bien sûr. Alors, voilà. Où sont donc, les caméras?
Partout. Et vous avez autre chose dans votre sac?
Et puis oui, je vous ai apporté quand même des desserts qui sont assez réputés. C'est des petits merveilleux. Donc des meringues avec une crème légère, fouettée, montée. Et vous avez tous les goûts. Je crois qu'il y en aura pour toute l'équipe.
Bravo, c'est vous qui êtes merveilleux pour cette émission. Qui est diffusée donc le mardi, combien de numéros?
Alors demain soir, il y a deux numéros. Donc c'est la Provence et on va de la Corrèze aussi à la Gironde dans le deuxième épisode. Et le mardi d'après, on sera en Bretagne, enfin Normandie au Mont-Saint-Michel jusqu'en Bretagne pour la fin. Et le dernier épisode, c'est Savoie et Haute-Savoie. Et on finit face au Mont-Blanc lors d'une expérience magnifique. Voilà, il faudra y aller jusqu'au bout.
Bon, il y aura d'autres numéros en préparation? Une suite, une saison 2?
Bah écoutez, je l'espère, si c'est un succès. En tout cas, moi je l'ai déjà écrite, la saison 2, et je peux vous dire qu'il y a des très belles régions là.
Parce que c'est écrit, tout est scénarisé, ou au contraire, parce qu'il y a une part de rencontres qu'on ne prévoit absolument pas,
non? Alors non, c'est pas du tout. Quand je dis écrire, c'est juste choisir la région, l'itinéraire et repérer les desserts. Après, il y a une grande part d'improvisation dans l'émission. C'est ce que j'ai poussé auprès de l'équipe. On m'a dit attention, en télé, on peut pas faire ça parce qu'on est une équipe et que tout est calculé. Et je leur ai dit va falloir essayer. En fait, ça a très bien marché.
Merci Jean-Baptiste Martineau.
Merci beaucoup Olivier.
Dans un instant, les infos de 10h. Restez avec nous sur Europe 1. Culture Média revient.